Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une émission proposée par Canal Académie et l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans le cadre des 40 ans de cet établissement public tourné vers la chasse durable et la biodiversité.
On retrouve Anne Jouffroy.
Renaud Denoy de Saint-Marc, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, membre aussi du Conseil constitutionnel, et vous êtes chasseur. Vous avez présidé l'ONCFS, c'est-à-dire l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et vous présidez actuellement, d'une part, le Conseil d'orientation du domaine national de Chambord, et d'autre part, le Club de la maison de la chasse et de la nature. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer la question du partage de l'espace entre les différents usagers de la nature, promeneurs, randonneurs, cueilleurs et chasseurs. En France, on compte environ 1 250 000 chasseurs. Vous êtes d'accord avec ce chiffre ?
Oui, je suis d'accord avec le chiffre.
Les interrogations sur le partage harmonieux de la nature sont nombreuses et pourtant, la nature appartient à tous. Et pourquoi la question se pose plus en ce moment qu'avant ? Parce qu'après tout, il y a toujours eu des chasseurs.
Il y a toujours eu des chasseurs. Enfin, depuis Lascaux en tout cas, les gravures sur les grottes magdaléniennes témoignent de l'existence de la chasse depuis les temps les plus reculés.
Donc le partage de la nature harmonieux, c'est plus difficile ces temps-ci, entre les usagers de la nature et les chasseurs.
Oui, alors, la question se pose aujourd'hui dans des termes nouveaux, effectivement, et ce qui rend le problème peut-être plus aigu qu'au XIXe siècle, par exemple. D'abord parce qu'il y a une relative raréfaction des espaces disponibles. C'est le mitage des abords des villes, la construction, hélas, un peu anarchique en milieu rural, compte tenu de le laxisme des plans d'occupation des sols, bon, enfin, ça ne m'emmènerait trop loin. En tout cas, bref, l'urbanisation augmente, le mitage des abords des villes et des villages s'accentue, ce qui fait que l'espace disponible pour les activités dites très créatives diminue. Deuxième raison, c'est l'augmentation de la population des néo-ruraux. Le nombre des agriculteurs a considérablement baissé au cours des dernières décennies. En revanche, beaucoup de personnes qui travaillent en ville ont eu envie de s'installer à la campagne, d'installer leur résidence à la campagne. Et ces néo-ruraux considèrent l'espace rural comme leur Luna Park, comme un bien public gratuit. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la nature appartient à tous. Je crois que juridiquement, cette appréciation est contestable, je le dirai tout à l'heure.
Oui, car les chasseurs payent des droits de chasse,
oui,
et des baux.
C'est un peu plus compliqué encore que cela. Et puis, les sports de nature se sont développés, le vélo, le cheval, le motocross, même le simple jogging, sont des sports qui ne coûtent pas cher à être exercé et qui se développe beaucoup. 25 millions de participants, me dit-on, dont 2 millions de licenciés. C'est donc quelque chose d'énorme. Et troisième élément, c'est la modification des modes de chasse. Traditionnellement, la chasse individuelle du petit gibier, qu'on connaissait dans beaucoup de régions, le brave chasseur accompagné de son chien d'arrêt qui se promène dans les friches, dans les bois, dans les vignes, etc., à la recherche d'un perdreau ou d'un lièvre, paraissait tout à fait inoffensif. Ce mode de chasse tend à disparaître, à se raréfier avec la raréfaction du petit gibier, alors qu'au contraire, les populations de grand gibier ont beaucoup augmenté. Et la chasse du grand gibier se pratique avec de grands rassemblements de personnes,
des
avec un nombre de participants plus élevé, des battues, et utilisent des compartiments de terrain beaucoup plus larges. On ne peut pas chasser le sanglier, le chevreuil ou le cerf sur des petits espaces, il faut encadrer de grands morceaux de territoire, notamment forestiers, et donc c'est assez visible. De plus, les chasseurs, hélas, se transportent, se déplacent, très souvent en automobile, en 4x4 puissants, bruyants, qui font gicler la boue des chemins sur les bottes des promeneurs et Cela est assez désagréable pour les promeneurs. Le mode de chasse est beaucoup plus voyant, beaucoup plus bruyant, même s'il est nécessaire, parce que le contrôle des populations de grand gibier est d'intérêt général. La preuve, c'est que la puissance publique impose aux chasseurs des plans de chasse qu'ils doivent respecter pour contrôler l'augmentation des populations de grand gibier, compte tenu notamment des dégâts qu'ils causent à l'agriculture et à la forêt. Les propriétaires forestiers, pas seulement l'État ou les collectivités territoriales, mais également les propriétaires privés, sont très attentifs à cela. Enfin, ce mode de chasse, chasse au grand gibier, se pratique essentiellement en fin de semaine, puisque c'est le moment de loisir de la plupart de gens. Et malheureusement, cette fin de semaine, c'est également le moment de loisir de la plupart des urbains ou des néo-ruraux, ce qui fait que pendant la période de chasse, il y a un risque de collision, si j'ose dire, des intérêts des chasseurs et des intérêts des non-chasseurs.
Alors, quels sont les griefs réciproques entre chasseurs, non-chasseurs
et... Ah bien, d'abord, la gêne. La gêne, c'est un grief que les chasseurs opposent aux non-chasseurs qui se promènent dans la nature, et c'est ce même grief que les utilisateurs qui se disent pacifiques de l'espace rural adressent aux chasseurs. Les chasseurs, évidemment, gênent les promeneurs parce que les détonations des fusils sont bruyantes et peuvent causer une peur largement irrationnelle chez les non-chasseurs. Ils occupent le terrain. Comme je l'ai dit, ils se déplacent souvent avec des véhicules bruyants sur les chemins. Et ils ont des tenues souvent... Enfin,
un
parfois
peu militaire.
Voyante, oui, plus ou moins copiée des treillis militaires, ce qui leur donne un caractère agressif qui ne correspond pas au fond de leur personnalité, mais qui évoque par réflexe chez les promeneurs l'idée de la guerre. De leur côté, les chasseurs disent que les promeneurs les gênent. Il est vrai que les motocross qui se promènent sur les chemins ruraux, avec le bruit qu'ils engendrent, gêne non seulement les chasseurs, mais
le gibier,
tous les autres. Le gibier finit par s'y habituer. Mais tous les autres utilisateurs et les cyclistes, les promeneurs, gênent la chasse parce qu'ils représentent un risque d'accident, n'est-ce pas ? Et les chasseurs font ce grief aux promeneurs. Alors le dérangement du gibier, moi je n'y crois pas beaucoup. Le gibier s'habitue beaucoup à la présence humaine. Ça peut être vrai pour ce qu'on appelle la chasse photographique, c'est-à-dire les gens qui essayent de prendre en photographie le gibier plutôt que de le tirer, et qui, par leur passion et par la volonté de s'approcher au plus près d'animaux, d'oiseaux sur leur nid, de petits dans le gîte où ils sont laissés par leur mère, peuvent causer du dérangement. Et enfin, le risque d'accident. Alors ça, c'est un grief qui est fait aux chasseurs. Bien entendu, le grief n'est pas fait aux promeneurs. C'est un sentiment irraisonné, parce que, heureusement, le nombre d'accidents de chasse est très restreint par rapport au nombre de chasseurs, par rapport au nombre de journées de chasse, par rapport au nombre de cartouches à plomb ou à balles qui sont tirées. Mais enfin, ces accidents existent.
On en parle facilement.
Les accidents mortels, oh, chaque fois qu'il y a un accident mortel, la presse en parle énormément.
Oui, c'est très
il
médiatisé.
Ne devrait y en avoir aucun. La plupart des accidents ont lieu entre les chasseurs. C'est très rare que ces accidents mettent en cause un tiers, une tierce personne, totalement étrangère à l'action de chasse. Malheureusement, ça arrive tous les ans. Ça arrive 3, 4, 5 fois par an. Mais évidemment, ces accidents sont toujours des accidents de trop. Mais il en résulte un certain sentiment d'insécurité chez les promeneurs. Bon, je peux en témoigner par le comportement de mes enfants et de mes petits-enfants, qui pourtant ont vécu dans l'atmosphère de chasse, c'est que dans ma campagne périgourdine, ils ont une appréhension le dimanche d'aller se promener dans les bois, alors que je leur répète sur tous les tons qu'ils ne courent aucun risque, mais il naît un certain sentiment d'insécurité du fait de l'exercice de la chasse.
Se promener dans les bois, d'accord, mais il faut savoir que les chasseurs ont pris un droit, ont pris un titre de chasse.
Nous y venons. Donc, quelle est la valeur de ces griefs ? Alors, il faut dire fermement, même si ça n'est pas toujours dit par le monde de la chasse, moi je le dis, dans la plupart des cas, les chasseurs sont plus légitimes dans l'exercice de leur activité, et donc dans l'occupation du territoire, que ne le sont les autres utilisateurs. Parce que, dans la plupart des cas en tout cas, le chasseur dispose d'un droit, ou bien le chasseur est chez lui, il est sur sa propriété. Le droit de chasse est un droit annexe au droit de propriété, et par conséquent, il ne fait qu'exercer son droit. S'il n'est pas chez lui, deux hypothèses. Ou bien il a loué le droit de chasse, car le droit de chasse peut être mis à bail par le propriétaire. Il a loué le droit de chasse, et par conséquent, il dispose de ce démembrement du droit de propriété. Soit il chasse avec, gratuitement, mais avec le consentement du propriétaire, et on est dans le même cas de figure. Ou bien enfin, les propriétaires se sont mis d'accord pour abandonner leur droit de chasse à une société de chasse. Ça se pratique de façon très courante dans tous les pays, disons grosso modo, au sud de la Loire. C'est ce qui se pratique le plus couramment dans ma région d'origine, qui est le Périgord. Et là aussi, les propriétaires ont signé, à un moment donné, un acte d'abandon de leur droit de chasse à la société de chasse locale. Et les chasseurs sont donc fondés en titre à se promener tous les jours où ils peuvent le faire, où ils veulent le faire, dans la campagne, dans les bois, alors que les autres usagers ne sont pas dans la même situation. Ils ne peuvent être assurés de leurs droits que lorsqu'ils sont sur des voies publiques ou lorsqu'ils utilisent des voies privées ouvertes à la circulation publique, c'est-à-dire les chemins ruraux. Mais en dehors de ça, les usagers autres que les chasseurs peuvent être tolérés, peuvent être admis, et très souvent ils le sont de la façon la plus généreuse qui soit par les propriétaires, mais ils sont dans une situation, si j'ose dire, tout à fait précaire, alors qu'ils considèrent que, après tout, la nature leur appartient, qu'ils peuvent se promener n'importe où, qu'ils peuvent cueillir les fruits forestiers comme les châtaignes ou les champignons comme bon leur semble, alors que tout cela ne relève que de la pure et simple tolérance. Donc la promenade à travers les champs, les friches, les bois, c'est tout à fait agréable certainement, mais il faut bien que les personnes qui se livrent à ce genre d'activité, à ce genre de délassement, considèrent qu'ils ne sont là que dans une situation de tolérance et non pas dans l'exercice d'un droit. La plupart du temps, les chasseurs sont plus fondés en titre que les simples promeneurs dans l'utilisation de l'espace rural, dans les champs et les bois.
Alors, nous allons nous retrouver dans un tout petit instant après une courte pause musicale.
Retrouvons Renaud Denoy de Saint-Marc dans une émission de Canal Académie, coproduite avec l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Alors le danger, il faut le relativiser objectivement. D'ailleurs, la preuve en est dans la modicité de l'assurance de responsabilité que les chasseurs sont obligés de contracter. Une police d'assurance pour les accidents de chasse, c'est de l'ordre de 25-30 euros par an. Ça montre bien que les risques sont minimes, sinon les compagnies d'assurance, qui ne sont pas particulièrement philanthropes, feraient payer beaucoup plus cher. Donc, il faut les relativiser objectivement, mais subjectivement, c'est très difficile d'ôter de l'esprit des gens que la chasse fait encourir un risque aux promeneurs. C'est, on l'a dit tout à l'heure, la tenue camouflée qui tente heureusement un peu à passer de mode. Le simple fait de voir des armes à feu, tout ça peut créer un certain sentiment d'insécurité chez les gens.
Alors, quels pourraient être les remèdes, justement, à ces partages des
espaces ?
Écoutez,
les remèdes, d'abord, je crois qu'il faudrait faire comprendre aux usagers non chasseurs de la nature les conditions de précarité de leur usage de la nature. Bien entendu, il est hors de question de les en chasser. Nous acceptons tous de voir des promeneurs dans les bois et dans la campagne, mais il faut quand même qu'ils connaissent les limites de leurs droits. Alors, les remèdes. On a pensé aux jours sans chasse. Ça a été même une règle de droit pendant un certain temps. Je crois que c'est une règle très excessive par sa généralité. Dire que dans toute la France, on ne va pas chasser un jour par semaine pour assurer la paix dans la nature et dans la campagne et que les gens puissent se promener, c'est tout à fait excessif. Sur le plateau de Mille Vaches, dans le cœur de la forêt landaise, il n'y a véritablement pas de raison d'interdire l'exercice de la chasse. Et puis, je crois que les usagers non chasseurs de la nature ne se satisferaient de cette règle que si le jour sans chasse était le dimanche
oui,
ou le samedi.
Oui, n'était pas le week-end.
Non. Alors que les chasseurs, en tout cas ceux d'entre eux qui exercent une activité, se livrent à l'exercice de la chasse pendant le même temps. Donc je crois que le jour sans chasse, c'est une mauvaise solution, d'autant plus que la campagne n'est pas envahie tous les jours pendant la période de chasse. Il est rarissime que des gens chassent tous les jours, n'est-ce pas ? Par conséquent, l'espace rural est paisible pendant de longues périodes de temps, sans même qu'il soit besoin de contrôler par la voie réglementaire l'exercice de la chasse certains jours. D'autant plus qu'il est nécessaire, je parle là du grand gibier, il est nécessaire de contrôler les espèces de grand gibier. Alors le sanglier, on en a beaucoup parlé au cours des dernières années, le sujet devient moins actuel aujourd'hui, mais en revanche, le chevreuil et le cerf sont des espèces en expansion qui peuvent porter atteinte à l'avenir de la forêt française. Aussi bien l'Office national des forêts que les propriétaires sylviculteurs privés sont très attachés à la maîtrise des populations de grand gibier et il faut absolument que l'exercice de la chasse puisse se pratiquer de façon qui ne soit pas trop limitée dans le temps.
Il y a plusieurs conséquences. L'excès de grand gibier, c'est des accidents de la circulation, c'est aussi des maladies possibles. Donc effectivement, tout ça, ça a besoin d'être régulé.
C'est certain. C'est certain que les espèces de grand gibier ont besoin d'être maîtrisées, régulées. Alors, le rôle des gestionnaires de l'espace ne doit pas être négligé. Je crois que l'Office national des forêts a un devoir à l'égard des usagers de la forêt. Ces usagers payants que sont les chasseurs et qui paient des redevances très élevées, et les usagers gratuits, si j'ose dire, que sont les promeneurs. L'Office national des forêts, je ne voudrais pas être méchant avec lui car j'aime beaucoup l'Office des forêts, mais l'Office des forêts a tendance à être très exigeant vis-à-vis de ses occupants payants, que sont les chasseurs, et être au contraire très tolérant à l'égard de ces usagers gratuits qui sont les promeneurs, parce que l'Office des forêts considère qu'il doit entretenir les meilleures relations avec tout l'environnement de la forêt, par conséquent...
Et les amoureux de la nature.
Et les amoureux de la nature, qu'il trouvera toujours des chasseurs pour venir prendre à bail ses lots de chasse, tandis qu'il faut qu'ils soient bien avec l'ensemble de la population. Alors je crois que là, l'Office devrait faire un peu de pédagogie à l'égard des usagers non-chasseurs. Moi, il m'est arrivé, à l'époque où j'étais... co-adjudicataire d'un lot de forêt domaniale, de demander à l'Office de forêt de bien vouloir fermer au public les parcs de stationnement des voitures à l'orée de la forêt que nous louions, 3 week-ends par an, c'est-à-dire les 3 week-ends où nous chassions, ce qui laissait quand même 49 autres week-ends, plus les autres jours fériés, aux promeneurs. Mais jamais, jamais les gestionnaires de la forêt en question
n'ont accepté
cette façon de voir qui n'était pas tout de même preuve d'une très très grande exigence. Alors je crois que l'Office devrait quand même peut-être faire un peu attention à cela.
L'éducation de la chasse, c'est l'affaire de tous, chasseurs, sociétés de chasse, fédérations et l'ONCFS.
Alors l'éducation, bien sûr, je crois que nous devons tous nous éduquer, les chasseurs comme les autres. Il faut que les chasseurs fassent très attention à leur comportement, d'autant plus que la population des chasseurs diminue dans notre population, alors que la population totale de la France augmente, la population des chasseurs diminue. Et la population des chasseurs est de plus en plus âgée en moyenne, ce qui fait que les chasseurs seront relativement de moins en moins nombreux au fur et à mesure que le temps passe. Donc il faut qu'ils fassent très attention à leur comportement, qu'ils expliquent ce qu'ils font, qu'ils soient courtois, bref, qu'ils ne suscitent aucune espèce de tension avec les autres utilisateurs, comme on dit, de la nature. Il faut qu'ils expliquent ce qu'est la chasse, qu'ils fassent de la pédagogie, qu'ils essaient d'associer au moins ceux de leur environnement à l'exercice de ce qu'ils font, qu'ils intéressent aux aménagements cynégétiques auxquels il procède, les plantations de haies et le comptage de gibier, ce qui est une opération qui peut amuser notamment les jeunes enfants, qu'il leur explique l'intérêt de l'acte de chasse. Alors, beaucoup de fédérations des chasseurs pratiquent cette pédagogie. Ils utilisent, je connais une fédération départementale, dont je connais très bien le président, qui sollicite les parents d'élèves pour que le mercredi après-midi, on emmène des groupes d'enfants de classe visiter un territoire, visiter un chenil, visiter le siège de la fédération, on leur montre des oiseaux empaillés, on leur montre les lieux où le gibier vie, où on leur explique comment tout cela se passe, où on leur montre des films, des photographies. Mais vous voyez que je vois là beaucoup de choses à faire de la part des chasseurs. Je ne conçois pas très bien ce qu'on pourrait demander aux autres utilisateurs de nature, qui se montrent tout de même souvent irascibles à l'égard des chasseurs et parfois parfaitement discourtois. Alors, moi, je n'ai pas de solution à ce qui les concerne. Mais peut-être, simplement, pourrait-on les appeler à davantage de tolérance.
Il faut dire que, à partir du moment où vous êtes locataire d'un endroit, vous avez des droits prioritaires à quelqu'un qui est là en passant.
Je me plais à vous l'entendre dire.
Je voudrais qu'on parle de l'organisation du permis de chasser, parce que je crois que ça fait partie de cette éducation. Le permis de chasser autrefois était distribué par la préfecture, je parle de quelques années auparavant. Maintenant, c'est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui s'occupe de mettre sur pied, de former, de faire des examens théoriques puis pratiques et qui ont quand même à peu près 20 000 demandes par an de jeunes, c'est souvent des jeunes, qui demandent à passer le permis de chasser.
Pas forcément des jeunes, il y a quelquefois des gens qui se mettent à la chasse au moment où ils cessent leur activité professionnelle. Des gens qui découvrent la chasse à 55 ans, 60 ans. C'est très bien comme ça. Alors, il y a maintenant pas mal de temps que la délivrance du permis de chasser est subordonnée à la réussite à un examen. Un examen théorique et pratique qui n'est pas d'une difficulté extrême. Donc, l'existence d'un examen préalable à la délivrance du permis de chasser a été certainement un progrès sans constituer véritablement un barrage à l'activité cynégétique, c'est-à-dire que si quelqu'un veut véritablement chasser, il sera peut-être recalé à l'examen une première fois, une seconde fois s'il est vraiment peu doué, mais il l'aura à la troisième fois, c'est vraiment certain. Mais enfin, cet examen fait prendre conscience, notamment des dangers de la chasse. Prendre conscience de la responsabilité de l'acte de chasse, notamment ne pas tirer un animal appartenant à une espèce protégée, donc montre la responsabilité du chasseur de protéger les espèces qui le sont légalement et qui méritent de l'être, et également de faire prendre conscience qu'il manie une arme qui est en elle-même dangereuse et que l'acte de chasse doit être un acte tout à fait réfléchi dans son principe comme dans ses modalités d'exécution.
Donc, en fait, on se tourne vers une chasse responsable et pour l'instant, c'est efficace.
C'est efficace. Il y a non seulement l'action de l'Office, l'action des fédérations, mais également, ce qui me frappe beaucoup, l'action de la presse cynégétique. La presse spécialisée est devenue d'une tonalité très protectrice. On ne parle plus de tuer, mais de prélever. On donne aux gens toutes sortes de conseils dans tous les domaines pour, rationaliser en quelque sorte l'acte de chasse et donner conscience aux chasseurs que les espèces sauvages ne sont pas inépuisables dans leurs effectifs. La presse cynégétique a complètement changé d'orientation par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ans. Donc la presse cynégétique joue un rôle éducatif très favorable sur le comportement des chasseurs.
Parlons de la façon dont les chasseurs s'occupent de l'habitat, des milieux. Et je pense par exemple aux marais, aux zones humides.
J'aime autant vous dire que s'il n'y avait pas la chasse du gibier d'eau, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de zones humides en France. Ça coûte extrêmement cher d'entretenir des marais afin de pouvoir y chasser. C'est un aménagement considérable dont on n'a pas idée tant qu'on ne l'a pas vu être pratiqué. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir chasser pendant longtemps dans des marais tout proches de la baie de Somme, dans une excellente région cynégétique pour l'accueil du gibier migrateur. Et je connais des gens qui travaillent à longueur d'année, c'est-à-dire un jour ou deux par semaine sur leur marais pour l'entretenir, cette zone humide. Alors évidemment, ces zones humides, quand on peut les louer pour la chasse, sont valorisées. Mais si elles n'étaient pas valorisées de cette façon-là, eh bien les propriétaires en abandonneraient l'entretien. Ces zones seraient très rapidement recouvertes par une végétation sans aucun intérêt, une végétation arbustive sans aucun intérêt pour le petit gibier, et disparaîtraient. Donc la chasse est un élément de préservation des zones humides qui sont très utiles, non seulement bien sûr pour les oiseaux, que ce soit des oiseaux chassables ou des oiseaux protégés, mais également pour lutter contre les inondations. Car les marais constituent une sorte d'éponge qui permet de recueillir pendant plusieurs mois les eaux en excédent. Si ces marais n'existent plus, eh bien c'est les ruisseaux qui prennent ces eaux-là.
Qui ruissellent trop fort.
Et quand ils ruissellent trop fort, ils inondent les villages. Et ce sont des phénomènes qu'on constate maintenant de façon annuelle, n'est-ce pas ?
Pour en terminer, on va encore parler de la nature. Et justement, vous aviez dit aussi, vous aviez parlé des haies qui sont replantées par les chasseurs. Et ça doit être parfois problématique parce que le contact avec les agriculteurs qui veulent faire de l'agriculture intensive n'est pas toujours facile à trouver avec nuance.
Oui, mais bien évidemment, les chasseurs ne peuvent replanter des haies que sur des territoires dont ils ont la maîtrise ou avec l'accord des propriétaires. Il est hors de question d'aller implanter des haies dans un endroit...
Non, c'est une gestion collégiale, si je puis dire.
Une gestion collégiale et qui suppose l'assentiment des propriétaires. Non, effectivement, je crois qu'à une certaine période, notamment à l'occasion des travaux de remembrement qui étaient nécessaires, on ne cultive plus les terres aujourd'hui comme on le faisait il y a 50 ans, et avec des tracteurs et des machines agricoles un peu encombrantes, il faut des parcelles plus vastes que celles qu'on connaissait quand on labourait avec une paire de bœufs. C'est tout à fait évident. Mais effectivement, on est allé sans doute un peu trop loin. Il y a des régions dans lesquelles on a fait complètement disparaître le caractère bocager qu'avait le paysage auparavant, pour en faire d'immenses étendues. L'exemple des Deux-Sèvres, par exemple, où on a, je pense, exagéré dans le sens de l'agrandissement infini des parcelles. Donc, il faut trouver un moyen terme entre un passé révolu et ce que les ingénieurs du génie rural ont conçu il y a 30 ou 40 ans, et que la replantation des haies, des talus, est une chose utile. Mais ça, c'est d'abord l'œuvre des propriétaires avant d'être l'œuvre des chasseurs. Mais si les chasseurs peuvent y participer, et donc constituer des haies qui soient à la fois des abris pour le gibier, des coupe-vents, et également des endroits où l'eau peut rester, n'est-ce pas ? C'est une chose tout à fait utile. Empêcher le ruissellement excessif des eaux de pluie. Donc les haies sont une très bonne chose, mais ça ne peut pas être l'œuvre des seuls chasseurs, c'est d'abord l'œuvre des propriétaires eux-mêmes.
Merci beaucoup, Renaud Denoy de Saint-Marc. Je vois que les chasseurs font partie des aménageurs du territoire.
C'est vrai. S'ils avaient une plus grande maîtrise du foncier, ils le seraient encore davantage.